Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud devant Festival International du film de Muret avec Julie Bertuccioli. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Et bonsoir Léo.
Bonsoir Vanessa.
Le Festival International du film de Muret se tient du 11 au 19 novembre au VOE de Muret. Et c'est vraiment un pur moment. Il y a vraiment des films incroyables à voir. Des rétrospectives, dont la rétrospective de l'invitée d'honneur, la réalisatrice Julie Bertuccioli. Et c'est vrai que quand on voit ces documentaires, ces films fiction, on a tout de suite envie de les regarder et de discuter avec elle. Eh bien, c'est chose faite, elle nous a accordé une interview au Festival International du film de Muret et c'était que du bonheur. Bonjour Julie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue au Festival International du film de Muret. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vous fait d'être l'invitée d'honneur?
Bah, c'est évidemment je suis très touchée qu'on ait pensé à moi pour faire cette rétrospective, que ça, j'étais déjà venue dans ce cinéma plusieurs fois à montrer mes films, mais évidemment, voilà, ça me fait plaisir de, ça fait bizarre d'ailleurs de se dire que oui, ça fait quand même pas mal de temps, maintenant plus de 30 ans que je fais des films et qu'effectivement, on peut dire qu'il y a un petit parcours et qu'on peut, faire une rétrospective. Là, ils sont pas tous là, mes films, hein, mais il y a, disons, les principaux sortis en salle, en tout cas. Et donc c'est très joyeux de partager avec le public, avec un regard différent, avec le temps qui a passé, voir les points communs entre les films. Et puis peut-être des gens qui parfois les revoient, parfois les découvrent encore. Donc c'est joyeux qu'un film ne se termine pas juste quand parfois il ne marche pas et qu'il reste que 2 semaines en salle. Quoi, il a toute une vie après. Donc c'est ça fait, bon, mes films ont plutôt marché en salle, donc ça va. Mais quand même si c'est que 3, 4 mois ou 6 mois, c'est finalement court la vie d'un film. Donc tous ces rétrospectives ou ces festivals qui montrent du patrimoine aussi, ça fait vivre le cinéma. On dit toujours que le cinéma, c'est pour toujours. C'est une sorte d'œuvre qui reste. C'est pas contrairement au théâtre. Bah, c'est vrai si on les montre encore, quoi. Sinon, ils peuvent aussi disparaître, enfermés dans une boîte et voilà, et ne plus jamais être montrés, hein. C'est précieux, tous ces moments.
Là, pour le public. Ouais. Il y a 4 de vos films. Mm-hmm. Plus 1 de votre papa.
Ouais, ouais, ouais.
Que vous venez de présenter et je vous ai vu très émue à la présentation.
Oui, c'est le premier film de mon père, le premier film de fiction de mon père qu'il a sorti en salle et qui a eu un gros succès à l'époque. C'était en 70-71. Il a eu plein de prix, il a représenté la France aux Oscars, il a eu le prix assez mythique du prix Jean Vigo. Et c'est un film qui me touche beaucoup. Mon père est mort il y a quelques années et je suis très heureuse là d'arriver, je l'ai fait remasteriser, restaurer, et donc on va faire une sortie, donc là le Festival du Muret là en avant-première, même si c'est une avant-première d'un vieux film, mais je pense pas qu'il l'avait jamais montré ici. Donc ouais, c'est émouvant parce que c'est un film toujours actuel, qui est en plus même je dirais de plus en plus actuel parce qu'il se passe en Algérie après des révolutions particulières dans tous ces pays du Maghreb. Et dans un moment où aussi la place des femmes, on commence à mieux voilà, se questionner sur cette place, et le film en parle beaucoup. Donc ouais, je pense qu'il y a tout un bon alignement des planètes, en espérant que le public là, quand je le retrouverai, aura aimé quoi. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter sur ce film. Mon père m'en a beaucoup parlé. Et puis c'est un film très très fort, très beau, qui mérite vraiment d'être vu et qui est aussi une trajectoire d'une femme dans un petit village paumé dans la montagne. Il est intense, il est spécial, il est presque sans parole. C'est comme ça, assez intègre, un peu dur, comme ça,
un peu fort,
voilà. Mais c'est vraiment très beau, très très beau.
Très émouvant.
Très émouvant.
Je me souviens, j'avais utilisé pas mal de mouchoirs.
Ah oui, d'accord.
Bah, tout pareil que votre film, depuis que Cotard est parti.
Ouais.
C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, vous faites une corrélation entre votre père et vous, oui, par rapport aux femmes fortes, oui, que vous, oui, mettez en avant.
Oui. Oui, c'est vrai que bon bah on vient de là où on est né aussi, hein, je veux dire évidemment que mon père a été tellement très important dans ma vie, tout ce que finalement les films qu'il faisait sans même de me faire du discours, j'ai appris par les films qu'il a fait, et c'est vrai qu'il s'est beaucoup intéressé aux femmes, d'ailleurs une période où Dans les 80, il y avait peu de réalisateurs qui faisaient autant de films, enfin de 80 à de 70 à aux années 2000, hein, il a fait beaucoup de films pour le cinéma, et il était particulièrement sensible au parcours des femmes, à leur destin, contrarié aussi, et donc ça m'a bien nourri, ça m'a aussi éveillé une conscience de ça, et donc c'est vrai que je m'amuse chaque fois que je fais un film de fiction notamment. Et d'ailleurs, même aussi documentaire, parce qu'il a fait aussi des documentaires, je m'amuse à voir, ah, mais tiens, et sans m'en rendre compte, c'est vraiment inconsciemment, et je le découvre après coup, ah, ben oui, tiens, il y a quelque chose en commun avec tel film de mon père, ou tel, bon, c'est, de toute façon, on fait toujours des films qui ont tellement de ressemblances avec d'autres, tellement de points communs, que c'est facile à faire, mais c'est assez particulier quand même entre nous, cette chose-là, et ça me, maintenant qu'il n'est plus là, en plus, et qu'il peut plus les voir et plus m'aider, enfin, m'aider comme un regard chaleureux, extérieur et en même temps très proche. Voilà, j'aime bien retrouver des points communs.
Oui, il apportait beaucoup de conseils.
Oui, bah, je les suivais pas toujours, ces conseils. Hein. Parfois, il s'énervait, il était pas toujours content que je l'écoute pas toujours, mais en tout cas, c'était un de nos points communs qui faisait qu'on avait une belle relation, quoi. Donc, c'est vrai que sa disparition a été très, très rude pour moi. Surtout assez soudaine, et il était très jeune, quoi. Donc, voilà.
Un jour, en 2022, vous avez reçu un appel d'Arte, vous parlant d'une certaine réalisatrice que vous adorez, que vous adulez, qui s'appelle Jeanne Campion. Et ils vous ont proposé de faire un documentaire.
Oui, alors ils m'ont proposé, mais je l'avais déjà moi-même proposé à Arte avant, et ils avaient pas accepté quelques années plus tôt. Et puis finalement, puisqu'on parle de plus en plus des femmes, des réalisatrices et tout ça, et qu'il y avait une actualité aussi d'elles qui faisaient un film, ils sont revenus vers moi, effectivement, en disant, bon, ben voilà, maintenant, on veut bien, on te le propose, est-ce que t'es toujours d'accord pour faire un film sur Jeanne Campion? Alors, j'ai sauté de joie, parce que vraiment, c'était un bon moment, en plus, pour moi, de le faire, si je trouve que c'était pendant le confinement, que j'ai adoré passer tout ce temps un peu, en suspens, comme pour tout le monde, un peu particulier, où on se remettait aussi beaucoup en question. Le cinéma on prenait un rude de cul, hein, de ce confinement. Les salles fermaient, on savait pas financièrement à quel point on pourrait s'en remettre. Est-ce que le cinéma vraiment redémarrait? Et moi, j'ai passé tout ce moment de doute aussi sur moi-même, sur ma capacité à faire des films après cet arrêt comme ça brutal, à voir ces films, à se nourrir de ces interviews, à passer des heures, à écouter plus d'une centaine d'heures d'archives. Et j'ai fait un film assez... Une belle traversée de son œuvre, ou même Arte, qui était la chaîne qui m'a proposé ça, était vraiment très en confiance et très généreux, parce qu'ils ont accepté que je fasse aussi une durée pas habituelle, un film d'une heure 40, alors qu'au départ c'était d'être un film d'une heure, hein, les fameux 52 minutes de la télé. Et ils ont accepté, mon parcours dans son œuvre, en plus un film sans commentaire, où il y a que d'une campion réalisatrice qui parle pratiquement, pas d'interview classique comme on fait souvent, de critique ou d'historien, ou d'acteurs, enfin il y a un peu quelques acteurs qui parlent, mais voilà, c'est pas dans les canons habituels,
c'est vraiment elle qui est mise en lumière,
sa parole, comment elle parle de son métier, et c'était une manière aussi pour moi, parce qu'on a, j'ai beaucoup en commun avec elle, de dire mon amour du cinéma, de raconter comment ça se fabrique, j'avais beaucoup de, je sentais, bon, parce que j'aimais ces films, mais aussi dans les thématiques qu'on choisit, j'avais beaucoup de points communs avec elle, donc j'ai adoré ce long temps traverser ses paroles, c'est revoir tous ses films et délecter à monter les extraits, à les choisir.
Vous avez fait un sacré travail journalistique de recherche.
Oui, alors journalistique, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas, oui, j'avais une documentaliste qui faisait ce boulot incroyable que d'aller chercher dans toutes les télés du monde, des interviews, plein des choses, des masterclass.
De l'INA,
on avait oublié
tout ça,
de partout dans le monde. Je trouvais aussi dans les bonus des DVD quelques images de tournage qu'elle avait été filmée pendant qu'elle travaillait. Donc c'était plus d'une centaine d'heures et des heures et des heures d'interviews décryptées, traduites aussi, parce que bon, même si je parle bien anglais, son anglais avec l'accent australien était pas toujours, ou néo-zélandais était pas toujours facile. Et donc ouais, c'était un gros travail de fourmi. Pour ensuite monter ça, je crois qu'on se rend pas compte à quel point le montage, enfin, peut-être vous, parce que vous savez comment radio même, c'est dur de monter, mais quand en plus il y a l'image, c'est très compliqué. Parfois elle disait, bon, c'est comme toujours, on répète un peu des choses quand on est en promotion d'un film. Mais je comparais toutes les manières dont elle en parlait, voir quelle était la meilleure phrase pour sur quelle image. Voilà, c'était un travail de fourmi, de dentelle en fait, pour arriver aussi à ce qu'on ait l'impression d'un même interview alors qu'elle disait ça à différents moments de sa vie. D'ailleurs, on la voit jeune, oui, moins jeune, avec telle coupe de cheveux à tel moment, dans différents décors. Et tout ça, c'est une sorte de continuité. Et j'ai adoré faire ce travail, quoi. Et puis de faire connaître cette femme dont, bon, on connaît la leçon de piano. Mais finalement, elle est pas non plus. Elle est très reconnue. Elle a eu des plein de prix, des Oscars et tout. Mais voilà, c'est chouette de voir quand je montre le film en salle ou à la télé, même que les gens ont envie de découvrir ou de revoir certains de ses films. C'est toujours voilà, je suis heureuse de partager ça et de faire découvrir une femme qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidée à faire du cinéma. Pas personnellement, enfin, je l'ai pas rencontrée quand j'étais jeune, mais elle m'a donné le courage de le faire parce que c'était une sorte de figure. On se dit, ah, bah, c'est possible d'être une femme réalisatrice dans un monde où c'était que les hommes, hein. Donc, l'air de rien, c'est des bouées comme ça, des phares au loin. On se dit, ah, bah, non, mais il y en a une qui l'a fait. Ou, bon, il y avait aussi Agnès Varda, il y en a quelques-unes. Oui. Mais c'est tellement peu par rapport à l'océan masculin de films magnifiques, hein, mais où on peut pas se projeter en fait. On se dit bah ça c'est un métier réservé à les grands maîtres. Bah, on voit que des hommes et on. D'ailleurs moi je me bats pour qu'on dise toujours réalisateur, réalisatrice, auteur, oui, autrice, pour parce que le langage nous donne une ouverture. Enfin notre cerveau peut se dire ah bah oui c'est un métier aussi de femme. Quand on est que entouré d'hommes c'est un vrai.
Ah, challenge,
oui. Ouais. Non, et puis c'est très important de savoir que c'est possible.
Et donc, vous le disiez, lundi, vous allez présenter deux films au scolaire, ouais, et qui vous tiennent à cœur,
ouais, hein, ouais,
notamment La Cour de Babel,
ouais.
qui vous tient énormément à cœur parce que vous avez suivi pendant un an une classe d'accueil.
Ouais.
Et avec cette institutrice, enseignante de français qui. On sent vraiment cette fibre, cette envie de mettre ces personnes-là qui étaient, on va dire, mis de côté.
Ouais.
Vous les avez mis vraiment en lumière.
Mmh. Oui, c'est vrai que c'est un film qui me tient très à cœur. Je l'ai fait maintenant il y a presque 10 ans, mais il est toujours autant d'actualité. Mmh. Les classes d'accueil, bon, elles ont changé de nom aujourd'hui. Maintenant, on les appelle les UP2A, mais bon, ça reste toujours un peu le même principe. Et ça parle de encore aujourd'hui, on voit comment sont maltraités les étrangers, comment on a oublié que l'intégration, c'est très précieux et que les gens s'intègrent d'autant mieux s'ils sont bien accueillis et qu'on a besoin de ce sang autre, une culture différente, des gens qui viennent aussi en France avec un grand appétit de réussir, d'aider le pays, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix et que notamment ces jeunes élèves, ils ont qu'une envie, c'est d'apprendre parce qu'ils viennent de pays où parfois ils ne sont pas allés à l'école, où ils ont, et donc c'est vraiment un sang neuf hyper précieux, c'est un cadeau pour moi, pour la France, hein, les étrangers. Donc et là le film le montre, je crois vraiment on arrive à comprendre à quel point c'est chaque fois des histoires différentes, des parcours différents. Il n'y a pas une immigration. Il y a plein de raisons pour lesquelles on le fait. Et il ne faut pas oublier que si nous, on était obligés un jour, parce que c'est la guerre en France, d'aller vivre en Chine, on aimerait bien être aussi bien reçus parce qu'on aurait aussi à apporter quelque chose à l'endroit où on va vivre, quoi. Et où on ne peut pas vivre ailleurs. Et voilà. Et donc, ce film, j'ai passé une année inoubliable, hein, avec tous ces enfants de plus de 24 pays différents. Où je les ai suivis dans tous leurs moindres doutes, questions, douleurs aussi, parce que c'est dur d'immigrer, c'est vraiment un exil forcé.
Oui, il y a de belles confidences.
Il y a de très belles confidences où c'est des héros ces enfants, hein, d'avoir traversé tout ça si jeune, d'avoir ou quitter leurs parents, ou retrouver leurs parents après 10 ans d'absence, pour plein de raisons différentes, et peu à peu ils forment corps, ils forment une petite famille dans cette classe. Pour retrouver confiance en eux, aussi lutter contre les moqueries de l'école, les autres, quand on parle pas bien la langue, quand on est de visage, de couleurs différents, on se rend compte qu'on est tous, enfin tous ces élèves ensemble, ils sont pas tout seuls dans cette difficulté. Et puis cette prof est géniale, qui les rassure, qui les met en valeur, qui les encourage, et qui par ce biais-là aussi leur apprend le français. Et ils s'intègrent petit à petit, et puis ils ressortent avec des parcours formidables. Hein. Ils sont tous fait des études géniales. Ils sont plus forts que nos petits Français là, pour qui l'école c'est ils se rendent pas compte du luxe qu'ils ont, en fait. Voilà.
Et le deuxième, c'est La Fabrique des juges.
Oui.
On rentre dans les coulisses pour voir que c'est pas si facile que ça d'être juge et ça prend énormément de temps.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un film que j'ai fait il y a un certain temps à l'école de la magistrature de Bordeaux, justement. En venant à Muret, je suis passée par Bordeaux. Et c'est vrai que c'était très passionnant pour moi. C'est mon premier film long pour la télévision, documentaire. J'ai toujours été passionnée par le métier de juge, et en plus un métier à multiples facettes, hein, avec le juge des enfants, ça n'a rien à voir avec le juge d'instruction, qui n'a rien à voir avec le juge des familles, enfin, ou avec le procureur, enfin, c'est chaque fois c'est vraiment un vaste métier. Et toutes ces questions de doute, d'intime conviction, de comment on décide, comment on choisit, comment on interroge, comment on s'intéresse et qu'on arrive à avoir de la distance et en même temps douter toujours. Et ça m'a toujours passionnée. Donc, je suis allée passer comme ça, plusieurs mois, presque 8 mois dans cette école, en suivant différents parcours d'élèves à des moments différents de la scolarité et pour voir comment ça s'apprend, comment ça se fabrique. Ça s'appelle la fabrique des juges. Et puis, en plus, ils faisaient des faux procès. Il y avait plein de moments passionnants à filmer parce qu'on peut pas.
Oui, ils changent de rôle à chaque fois.
Ils changent de rôle. Et donc, et puis ils étudient des cas. Et donc, voilà, c'était vraiment, j'ai adoré faire ce film. Et je pense que je sais pas si ça peut ouvrir des vocations, mais en tout cas, ça peut aussi beaucoup questionner sur le rôle de la justice en France. C'est un rôle primordial, un peu théâtral, un peu symbolique. Et je pense que pour les jeunes élèves de demain, je crois que c'est des collégiens ou des lycéens ou des collégiens.
Alors demain, c'est des collégiens. Le troisième pour la cour de Babel, et après c'est des lycéens en troisième.
En BTS, d'accord. Et ça, je pense que c'est toujours passionnant de voir aussi de l'intérieur d'un métier comment ça se fabrique, comment ça se pense. Et ils verront peut-être différemment aussi les jugements. Il y a plein de clés pour comprendre aussi à quoi sert la justice, comment elle est pensée, comment elle sort en France, parce que évidemment selon les pays, il y a vraiment des points de vue très différents. Hein. La justice américaine n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre. C'est vraiment des grands principes différents. Et donc voilà, je suis très heureuse de partager ça avec eux, de voir quelles questions ils vont avoir, quelles vont être leurs réactions, comment pendant le film aussi ils vont réagir. Voilà.
Je sens beaucoup d'implication dans tout ce qui est documentaire, dans tout ce qui est force de frappe.
Oui.
Est-ce que vous avez autant ce plaisir, cette envie quand vous faites de la fiction ?
Oh oui, pour moi, de toute façon, c'est le cinéma à deux bras, hein, ou deux jambes, c'est la fiction et le documentaire. Ils sont tous les deux aussi riches, importants, nourrissants. Et puisque je fais les deux, c'est vrai que je m'imprègne de l'un pour aussi faire l'autre, parce que finalement, la fiction, elle ne veut que copier le réel. Elle veut qu'on y croit, on ne doit pas sentir la caméra, on raconte une histoire comme la vraie vie. Et donc, elle essaye de copier le documentaire d'une certaine manière. Et le documentaire aussi se nourrit malgré tout de la fiction parce que, il faut quand même construire une dramaturgie quand on fait un film de documentaire. J'appelle documentaire d'auteur, disons, quand c'est pas juste un reportage fait par un journaliste, quand c'est vraiment un documentaire comme ça, comme je l'ai fait, où on suit pendant des mois des gens et tout. Et les deux sont très convergents. Et moi, j'adore faire les deux. Et puis même en fiction, je fais un peu d'improvisation, je travaille aussi avec des non-professionnels, je suis ouverte à l'imprévu, ce qu'il faut être complètement quand on fait un documentaire. Alors, on a beau avoir des envies, penser des dispositifs, écrire un peu des dossiers, on ne sait pas ce que la vie va nous donner quand on filme. Et rien ne peut être préécrit, aucun dialogue ne peut être écrit en documentaire, c'est vraiment, voilà. Mais il faut être là au bon moment, savoir quoi regarder, comment le regarder, quel personnage choisir, quel moment on va aller voir ce personnage et dans quel contexte. Et c'est une mise en scène dans tous les deux cas. Pas la même mise en scène, parce qu'on demande pas à quelqu'un quand on fait un documentaire de faire telle chose, de dire telle chose, mais on cadre quand même, on est là, on choisit un moment. Et donc ça, c'est une sorte de, et puis on cadre aussi d'une certaine manière, on filme d'une certaine manière. Il y a plein de manières de faire différentes. Un même sujet peut être, faire des films très différents, faits par des différents réalisateurs ou réalisatrices, quoi. Donc oui, non, j'aime, les deux sont aussi enthousiasmants. Mais c'est bien de passer de l'un à l'autre. Ça change un peu parce que ils ont chacun leurs difficultés. Et c'est nourrissant de changer un peu. Voilà. Je mets en jachère un côté pour repartir à l'autre et inversement, je remets dans l'autre champ.
Quand, des deux,
voilà,
en fait.
Je nourris des deux. Ouais.
Alors. Quels sont les projets? Est-ce qu'il y a quelque chose, un documentaire qui va arriver?
Oui.
Une fiction?
Je suis en train de monter un documentaire que j'ai filmé avant les vacances, l'année dernière. Je suis retournée justement dans le collège à la de la Cour de Babel,
ah,
à la Grange aux Belles à Paris. Et le hasard a fait que je voulais faire un documentaire un peu autour de, du handicap. J'avais déjà fait un film sur une femme malvoyante qu'on va voir, la nouvelle du cosmos aussi ici. Et,
qui est très beau d'ailleurs.
Ouais, que j'adore, une femme extraordinaire, un film complètement, enfin, je veux dire, un film. Son cas est incroyable, donc le, pour moi, ça, de faire ce film, ça a été une vraie traversée. J'ai eu du mal à faire des films après, tellement ça a été une rencontre bouleversante. Et donc là, je voulais encore faire un film. On m'avait proposé aussi de faire un film pour France Télévisions sur le handicap, et j'ai voulu filmer des enfants malvoyants et aveugles. Quelque chose qui me touche beaucoup, moi qui fais du cinéma, pour qui la vision, la vue est très très,
très importante.
Et voilà, j'avais envie d'aller voir de ce côté-là. Et je suis retournée dans ce collège parce qu'il y avait un dispositif Ulysse qui existe dans beaucoup de collèges maintenant, hein, et même de lycées, et même de petites classes, où on aide à ce que les enfants handicapés en général, mais bon, il y a des classes parfois spécialement pour des déficients visuels, mais soient intégrés dans les classes normales. Et donc, c'est un dispositif avec des gens qui les aident en classe, ou une femme, enfin là, c'est une femme que je filme qui dans ce lieu où ils peuvent venir se reposer ou prendre des cours particuliers, ou être là pendant les récré quand ils n'ont pas envie d'être dehors, on les aide à voilà mettre les textes en braille ou à grandir les polices, quoi, pour qu'ils puissent revoir les textes des professeurs. Donc c'est voilà, j'ai passé plusieurs mois au milieu de ces enfants et c'était très très bouleversant de voir comment ils sont des ados comme les autres, qui vivent et ils se font des copains, ils y arrivent, ils sont, et puis comment ça rend très mature aussi les autres enfants de côtoyer des gens qui ont pas les mêmes capacités qu'eux, mais qui sont encore plus forts qu'eux pour plein d'autres choses. Donc c'est encore une fois du côté du vivre ensemble. Moi, je suis toujours très touchée. Je pense que beaucoup de mes films tournent autour de ça, de gens qui vivent effectivement un drame. Ça peut être la mort de quelqu'un dans l'arbre ou dans depuis que t'as réparti, ou des handicaps, ou des voilà des grosses tristesses. Et comment on en sort en fait plus mûr, plus fort, plus peut-être plus créatif. Et c'est toujours des parcours comme ça qui me touchent beaucoup, m'enrichissent moi personnellement et m'aident beaucoup à vivre de voir des gens comme ça si forts et de jamais les traiter comme des victimes parce qu'ils ont souvent beaucoup plus de capacité que nous et beaucoup plus d'imagination et de capacité de rebond que ceux qui n'ont pas ces problèmes, disons.
Ben ouais. Merci beaucoup en tout cas, et on a hâte de découvrir ce nouveau film.
Ouais.
Et merci pour ce moment passé avec nous.
Merci beaucoup.
J'ai pu parler avec elle des documentaires, des choses qui me tenaient à cœur, comme celui de Jeanne Campion, la femme du cinéma. Ben oui, c'est vrai que j'avais très très envie de parler de cette réalisatrice avec elle, et je savais qu'elle l'affectionnait énormément. Et puis, on a parlé de la Cour de Babel et de la Fabrique des juges qu'elle présentait au scolaire. Alors, la Cour de Babel, c'était à 7 classes de 3e, et la Fabrique des juges à des classes de BTS. Donc, c'était vraiment très fort. Elle a pu discuter avec eux et je sais qu'elle a passé un excellent moment. Et bien sûr, le cinéma avait projeté 4 films de la réalisatrice, mais aussi un des films de son papa, Les Remparts d'Argile. Et c'était vraiment un moment très émouvant pour elle aussi, comme elle nous en a parlé. Alors, merci énormément au Festival International du Film de Muret d'avoir permis cette rencontre et surtout de nous avoir permis de revoir les films de la réalisatrice Julie Berticcioli et un de son papa, Jean-Louis Berticcioli. C'était Chaudevent, Festival international du film de Muret, avec l'interview de la réalisatrice Julie Berticcioli, qui était l'invitée d'honneur et qui a eu une rétrospective de ses films incroyables. Merci énormément au festival, merci notamment à Joloubet de nous offrir cette possibilité, à toute son équipe. Et rendez-vous au Festival international du film de Muret pour découvrir des films en avant-première, que ce soit documentaire ou fiction. Vous avez tout le programme sur le podcast de l'interview et de la programmation du festival. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay?